Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette saison 2025-2026 de Osons la philosophie avec Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour Sylviane, bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
Merci d'être aussi fidèle à nos émissions de philosophie. Je crois que c'est bien la 10e ou 11e saison. Et vous trouvez toujours des nouveaux sujets, un peu surprenants parfois. Et aujourd'hui, l'émission, qui est en deux parties, s'intitule « Kierkegaard commente le sacrifice d'Isaac », sacrifice entre guillemets. Et bien sûr, comme d'habitude, je vais vous demander pourquoi ce choix.
Alors, c'est un choix un peu personnel parce que vous verrez le thème fondamental, c'est une interrogation et une figuration de ce que peut être la foi comme absolu. Alors, nous sommes évidemment dans une atmosphère luthérienne, puisque je vais dire quelques mots de Kierkegaard. Alors, pourquoi ce titre et pourquoi surtout cette préoccupation? Parce que j'ai lu Kierkegaard lorsque j'étais jeune. Je me souviens qu'au bac, j'avais donné comme exemple cette œuvre. Et d'autre part, j'ai assisté, lorsque j'étais à Strasbourg en philosophie, à un cours d'André Neher, qui avait inauguré la chaire hébraïque à l'Université de Lettres. Ce cours portait sur le silence dans la Bible. Du reste, il en a donné un livre que je citerai éventuellement, que je citerai certainement. Voilà. Et d'autre part, j'ai lu récemment un livre en italien, donc de Calasso, et dont le titre est, en tout cas en français, Le livre des livres. Et il y a une réflexion tout à fait intéressante qui me permettra d'achever ce propos. Entre parenthèses, bien sûr, j'ai lu aussi le texte de Derrida, d'après un séminaire qui s'appelle « Donner la mort », où il y a véritablement une analyse du texte, enfin de l'œuvre, de Kierkegaard. Et l'accent étant mis sur le silence, le secret et le silence. Ce sur quoi je terminerai mon propos.
D'ailleurs, vous m'avez dit que Kierkegaard écrivait souvent sous des pseudonymes.
Oui.
Et que pour ce livre, qui s'intitule « Crainte et tremblement », il avait pris le pseudo de Johannes de Silencio.
Oui. Alors, vous verrez, notre impression, c'est à la fois celle de l'admiration devant un texte un peu bigarré, puisqu'il ne relève pas d'un genre particulier, ni philosophique, ni théologique, surtout pas théologique. cet ouvrage, disais-je, est à la fois une méditation sur un texte biblique, alors c'est très rigoureux, et aussi se manifeste en filigrane un événement autobiographique qui concerne la relation de Kierkegaard avec sa fiancée. Mais je voudrais d'abord présenter Kierkegaard. Alors, Kierkegaard, ou Kierkegaard, mais moi je ne peux pas prononcer comme ça. Kierkegaard, donc, est un écrivain danois, philosophe, quoi qu'il en dise et quoi qu'il en pense. Il est né en 1813 et mort en 1255. Et son œuvre a une très grande célébrité au moment de ce qu'il est convenu d'appeler l'existentialisme. Je pense qu'il y a largement un faux sens sur la lecture des existentialistes.
Crainte et tremblement, c'est de 1843.
Alors, le titre du livre dans lequel je vais puiser mes citations et mon analyse s'intitule « Crainte et tremblement ». Alors, le titre renvoie à une citation de Paul de Tarse. La voici. Il s'agit de quelques lignes de l'Épître aux Philippiens, 2:12. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Pourquoi cette injonction? Parce que Paul lance une sorte de phrase testamentaire à, entre guillemets, ses disciples. Voilà. Et bien entendu, ce double terme, crainte et tremblement, donne en quelque sorte sa tonalité émotionnelle aussi, à l'ensemble de l'ouvrage et à la question de la foi centrée sur l'étude, l'analyse de, du sacrifice d'Isaac par son père Abraham.
Donc en fait, c'est, la foi se vit là dans, dans la crainte et le tremblement, en fait.
Oui, c'est plus compliqué que ça.
C'est plus compliqué, mais c'est ce que j'en ai retenu de nous.
Alors si, Kierkegaard donc vit toute sa vie à peu près à Copenhague, malgré une incursion à Berlin où il suit des études de philosophie. Il vit à peu près toute sa vie à Copenhague. Bon, le grand moment de, son, de sa vie, c'est des fiançailles et le retrait de ses fiançailles, une rupture. Et en même temps, toute son œuvre est consacrée vraiment à la question très énigmatique pour lui de la foi, mais de la foi comme expérience existentielle. Encore une fois, on n'est pas dans la théologie. On est dans quelque chose qui relève du souffle, de l'inspiration. C'est cela qui commande sa lecture. Le pseudonyme. Eh bien, Kierkegaard écrit très souvent une immense production, souvent
sous des
pseudonymes. Et le pseudonyme qu'il a choisi pour ce livre, Crainte et tremblement, s'intitule Johannes de Silencio, Jean du silence. Et le silence est, je crois, le thème le plus fort du livre, le silence d'Abraham. Pendant tout cet épisode, que je vais lire bien sûr, c'est ce qui résume véritablement la foudroyante interprétation de Kierkegaard. Une méditation sur le silence.
Sur le silence.
C'est pourquoi je faisais référence à André Néer et surtout aussi aux textes et aux commentaires de Jacques Derrida.
Ouais. Voilà. On aurait presque pu intituler l'émission « Le silence », en fait.
Oui. Mais je voulais vraiment insister sur ceci, que tout ce livre et toute cette méditation, qui est relativement courte quand même, il y a quelques centaines de pages, suppose vraiment une prise du texte, une prise avec le texte biblique, avec un sentiment, cette tonalité affective dont je parle, qui est celle de l'angoisse, nous allons le voir, crainte et tremblement, mais surtout angoisse. Et d'autre part, il y a une véritable interrogation sur la foi, et la foi dans ce qu'elle a d'absolu, un absolu. Eh bien, cet absolu de la foi, il se réalise dans un moment, qui est le moment constitutif des religions monothéistes, puisque ça ne concerne pas simplement
le christianisme.
Oui, enfin d'abord, pardon,
le judaïsme.
Mais d'abord, la tradition de la Bible hébraïque. Et je vais vous en lire quelques lignes. Bon, je pense que pour mes auditeurs, ce ne sera qu'un rappel, n'est-ce pas?
Alors c'est vrai que le sacrifice d'Abraham, on en parle et on l'interprète peut-être mal. Et donc, je le répète aussi, dans toutes vos émissions, vous faites beaucoup de lectures. Ce qui est important, c'est que...
Alors, ici, une lecture biblique, une fois n'est pas coutume. Il s'agit bien sûr, Genèse 22. Il arriva après ces fêtes, c'est-à-dire une alliance avec celui qu'on appelle Abimélec. Il arriva après ces fêtes, ou après ces paroles, que Dieu éprouva Abraham. Il lui dit, Abraham. Il répondit, « Me voici, hineni. » Il reprit, « Orsa. » La traduction est un petit peu à l'ancienne. « Orsa, prends ton fils unique, celui que tu aimes. » Ton fils unique, celui que tu aimes. Isaac, achemine-toi vers la terre de Moria, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Donc, il y a l'épreuve, l'appel, la réponse, me voici. C'est une réponse qui scande tout ce passage,
ça dit
22,
fois,
me voici, trois fois. Donc c'est bien l'annonce d'une soumission. Ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Bon, et là, c'est bien une montée vers un lieu élevé, dont il s'agit, puisque traditionnellement, les sacrifices se faisaient sur les hauteurs.
Bien. Et là, il emploie le mot holocauste.
Oui, alors il s'agit d'un holocauste. Hein. Offre-le en holocauste sur une montagne que je te désignerai. Alors, je rappelle que l'holocauste, c'est un sacrifice où tout est brûlé. Hein. Alors, en hébreu, c'est le mot hola, peu importe, mais il se distingue d'autres types de sacrifices. Je continue. Bon, tout le monde connaît ça. Abraham se leva de bonne heure, sangla son âme, emmena ses deux serviteurs et Isaac, son fils, et ayant fendu le bois du sacrifice, il se mit en chemin pour le lieu que lui avait indiqué le Seigneur, Elohim. Hein, d'abord, Elohim. Hein, Dieu, le Seigneur, Elohim. Je continue. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le lointain. Bon, Abraham congédie ses serviteurs et il dit « Moi et le jeune homme, nous irons jusque là-bas. Nous nous prosternerons et surtout, nous reviendrons vers vous, nous. Mmh. » Hein? Tout se passe comme s'il y avait l'indice dans la textualité même.
Mmh. Nous reviendrons.
Oui, donc de la narration, parce que c'est une narration. Mmh. Hein? Tout se passe comme s'il y avait l'indice même d'un dénouement qui est le dénouement de la grâce. Mmh. Donc Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur Isaac, son fils, prit en main le feu et le couteau, et ils allèrent tous deux ensemble. Alors, premier élément du drame, première parole, il n'y en a pas beaucoup. Tout le reste était silence, ce qui précède et ce qui suit. Hein. Isaac, s'adressant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Il répondit « Me voici, Hineni, mon fils ». Il reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau de l'Holocauste ?» Abraham répondit « Dieu choisira lui-même l'agneau de l'Holocauste, mon fils. » Alors, il s'agit d'une réponse, mais d'une réponse à côté, qui ne lève pas finalement le silence. Une réponse dont Kierkegaard dit qu'elle relève de l'ironie. Alors, il faut savoir ce que c'est que l'ironie pour... Pour Kierkegaard, il renvoie à Socrate. Hein. Et ils allèrent tous deux ensemble. Or cela, il n'y a aucune parole. Hein. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Alors voilà le passage important. Abraham y construisit un autel, disposa le bois, lia Isaac son fils et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Il lia Isaac, son fils. Je reprendrai. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Et je m'arrête. Alors d'abord, ceci. Abraham lia son fils. Alors ce passage est bien sûr un passage qui a été mis en avant par la tradition juive. Puisque ce qu'il est convenu d'appeler le sacrifice d'Abraham, c'est pourquoi je vous ai demandé de mettre des guillemets, Sylviane, dans la tradition juive, se dit la ligature d'Abraham. Hein? Et là, vraiment, dans tous les textes de commentaires d'origine juive, c'est la ligature d'Abraham. La ligature par Abraham d'Isaac. Oui. Et vient ensuite le couteau. Hein? Alors, tout se passe comme si Søren Kierkegaard mettait en valeur l'acte qui consiste à lever le couteau. Mm. Et bien sûr, l'ange va intervenir par deux fois, etc. Le couteau. Alors, il y a ou bien le lien, ou bien le couteau. Vous voyez, il y a deux versions, deux analyses possibles de cet acte sacrificiel.
Mais souvent, puisqu'on a cherché un visuel et on a choisi le tableau de Laurent de La Hire de 1650, souvent, il y a les deux. C'est-à-dire, il y a le couteau levé et les liens. Et les liens.
Et les liens, oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui. Mmh. Oui. Mais il est assez intéressant de voir comment il peut y avoir deux qualifications de cet acte, bon, dont nous verrons bien sûr que pour Søren Kierkegaard, c'est l'acte de la foi dans ce qu'il a d'absolu et voire d'inintelligible, infiniment cruel, hein, inintelligible. Alors nous reviendrons sur ces thèmes. Alors puisque c'est le moment... Je voudrais simplement dire à nos auditeurs que ce passage, paracha, ce passage donc de la Bible hébraïque, est lu au moment au deuxième jour l'an juif, du nouvel an juif, de Rosh Hashanah, qui aura lieu le 23 septembre de cette année.
C'est bon. Une coïncidence que...
Ah, c'est tout à fait une coïncidence, ou à moins que il y ait sous-jacente une inspiration prophétique, mais soyons modestes.
Nous avons parlé de l'illustration visuelle sur le site de Radio Alliance Plus, mais il y a toujours une pause musicale. Et il vous a semblé assez évident, Françoise, de choisir l'opéra The Cave de Steve Reich. Alors, un opéra qui est en trois parties, Abraham, Isaac et Israël. On prendra un extrait assez court, donc nous ne spécifions pas quel extrait vous allez entendre, mais c'est The Cave, l'opéra de Steve Reich. Oui. Fait entre 90 et 93.
Alors, un tout petit mot.
Oui.
The Cave, c'est la grotte de Marpella, hein, qui devient alors le tombeau du patriarche. Histoire atroce à ce propos, mais laissons cela en suspens.
Nous écoutons. Alors, sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons Françoise Gernot au moment où Abraham a lié Isaac, lève le couteau, et là...
Et là, eh bien, surgit l'ange du Seigneur. Et le mot Seigneur ici n'est pas Elohim, mais c'est le terme en quatre lettres imprononçables dans la tradition juive que les chrétiens articulent sous le nom de Yahvé. Double définition de Dieu, double dénomination de Dieu qui serait une chose intéressante à travailler. Bien. Alors l'ange du Seigneur donc arrête le bras de d'Abraham et surgit les cornes d'un bélier donc sont prises dans un buisson. Abraham donc va prendre ce bélier pour l'offrir en holocauste. Un bélier avec une corne. Cette corne, entre parenthèses, serait l'ancêtre de la corne de bélier qui est justement, je crois que c'est la raison pour laquelle ce passage est choisi, c'est la corne de l'appel de l'officiant lors du jour ou des jours du Nouvel An. La corne de bélier, le chauffard. Bon, ça c'est une petite parenthèse extérieure, je dirais, au texte de Kierkegaard. Mais voilà.
Intéressante.
Oui. Parce que tout est susceptible de jeux symboliques, de jeux interprétatifs. Mais je voudrais vous lire le problème. Le problème que soulève d'abord Kierkegaard, page 71. pour qui ça intéresse, je donnerai les références. Kierkegaard imagine un prédicateur tout à fait commun, qui ne comprend pas très bien de quoi il s'agit, avec le sacrifice d'Abraham, bien qu'il en parle. Et voilà. Contradiction du prédicateur, parce qu'il y a à la fois, bien sûr, une exaltation de la foi d'Abraham,
la foi,
et puis quand même la révélation d'un la possibilité d'un crime qui est d'une cruauté
horrible,
absolue. Hein. Enfin, un père qui tue son fils, le fils qu'il a attendu si difficilement. Je rappelle que le fils est bien le fils unique que tu aimes, c'est Isaac. Mmh. On oublie Ismaël.
Oui.
Entre parenthèses aussi, dans cette scène, il n'y a rien de féminin. Il n'y a pas une voix féminine.
Mmh. Hein.
Donc, Sarah ne dit pas au revoir à son fils. Hein. Tiens-toi bien. Non, pas du tout. En tout cas, pas dans le texte biblique. Bien. L'éloge qui serait fait par un pasteur serait creux. Voilà. Je ne suis point désireux de souscrire à un éloge si creux. Donc, celui d'un pasteur qui ignorerait la dureté, le choc de ce récit. Si la foi ne fait pas du désir d'immoler son fils un acte sacré, alors que la condamnation qui frappe tout autre homme enveloppe aussi Abraham, si l'on manque de courage de mener jusqu'au bout sa pensée et de dire qu'Abraham est un assassin, c'est ce qu'aurait dû dire le pasteur. Hein? Mieux vaut alors se procurer ce courage sans plus attendre d'immérités éloges. L'expression éthique pour l'action d'Abraham est qu'il veuille tuer Isaac. L'expression religieuse, elle, est qu'il veut le sacrifier. Mais c'est précisément dans cette contradiction que réside l'angoisse, qui, avec certitude, peut faire perdre le sommeil à un homme, et sans laquelle, cependant, Abraham n'est point l'homme qu'il est. Donc, nous voyons bien que ce que souligne avec une très grande violence, justement la violence, de ce contraste entre ce qui serait un assassin au titre, dit-il, de l'éthique. Alors, ce que Kierkegaard entend par éthique, c'est la morale, mais c'est surtout c'est la morale commune, c'est la morale du groupe, liée évidemment aux instances religieuses institutionnelles, liée aussi à la morale et au droit de l'État. Donc, quand nous sommes dans le stade éthique, comme dit Kierkegaard, nous sommes donc à la fois fidèles à une communauté établie et citoyens d'un État. Donc, à ce titre-là, évidemment, l'action d'Abraham, c'est un assassinat.
C'est un crime, oui.
C'est un crime. Hein? Alors que l'expression religieuse, et là nous sommes dans une autre sphère, qui est celle de la relation singulière du fidèle à Dieu, hein? L'expression religieuse, je cite, « elle et qu'il, Abraham, le veuille sacrifier ». Et c'est précisément dans cette contradiction que réside l'angoisse, puisque Abraham est pris entre le désir de tuer son fils et en même temps, ce désir se convertit selon une autre logique que celle, disons, de la moralité ou de la loi de l'État. Cette action se renverse et devient la plus haute des expressions religieuses. Alors, vous allez me dire, est-ce que Abraham est un modèle?
Non.
Surtout pas. Et c'est là où il y a un tour très intéressant chez Kierkegaard et qui ouvre sa méditation. Bon, il s'agit de montrer la dualité de l'acte de foi, à la fois cruauté, abandon. Car si l'on réduit tout à la foi, c'est-à-dire à ce qu'elle est, il m'est avis que l'on ne peut, sans péril, en parler à notre époque, laquelle, en matière de foi, donne difficilement dans l'extravagance. Toujours la petite note très hostile à ce que peut être la collectivité protestante de son temps et l'institution. C'est par la foi seulement que l'on ressemble à Abraham, non par le meurtre. Donc il y a bien, s'il y a une Abraham en tant que modèle, c'est parce qu'il s'abandonne grâce à la foi totalement au divin dans une sorte de mouvement absolu. Donc quand, je vais m'arrêter là, quand à propos d'Abraham, Kierkegaard traite de la foi, c'est toujours comme un mouvement et il s'agit d'un acte. En ce sens, c'est toujours quelque chose qui a à voir avec une expérience existentielle, un agir, et pas une prière, et pas une vision extatique.
Et nous continuerons dans cette seconde émission à en parler. Merci à vous, Françoise.
Merci à tous et à toutes.